Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont dans la joie parce que nous pouvons venir dans ta maison absolument librement, entendre des témoignages de vie transformés, manière publique, officielle, et de voir à quel point tu es encore un Dieu qui agit aujourd'hui. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, il n'y a aucun mérite pour aucune personne ici. Mais Seigneur, on est juste émerveillé d'un Dieu qui a donné sa vie pour nous. Alors, sois le seul au centre ce matin. Sois glorifié en ton nom. Amen. Si c'est la première fois pour vous dans une église, c'est le moment où on ouvre la Bible et on essaye de savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et c'est ça que j'aimerais faire avec vous pendant quelques minutes. Je vous rassure, je ne vais pas prêcher pendant 2 heures. Mais je voudrais juste vous partager un passage dans la Bible qui m'a vraiment marqué cette semaine. Et donc si vous avez une Bible ou si vous voulez suivre sur les écrans, vous pouvez. Je vous encourage à aller dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu, c'est un disciple de Jésus. Il était vraiment aux côtés de Jésus 24 heures sur 24. Et Matthieu nous rapporte un long enseignement de Jésus qui s'étend sur 3 chapitres. Et dans ce long enseignement, qu'on appelle généralement le sermon sur la montagne, le passage qu'on va lire ce matin se trouve à la toute fin. Un peu comme si c'était sa conclusion, la conclusion de Jésus après avoir enseigné pendant quelque temps. Et donc je vous fais la lecture de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Cette semaine, alors que j'étais en train de partager, que j'allais parler de ce passage, une personne qui m'a raconté une histoire, l'histoire de cette maison que vous voyez aux écrans, construite dans les années 1890. Dès que vous allez la voir, certains vont la reconnaître. Et c'est une maison qui était dans le quartier de Bassin, tout près de la rivière de Chicoutimi. En 1947, une première inondation frappe tout le quartier. Après cette épreuve, son propriétaire décide de renforcer considérablement les fondations de sa maison en les fondant, en les ancrant directement dans le roc en dessous d'elle. 50 ans plus tard, les 19, 20 et 21 juillet 1996, une pluie torrentielle tombe sur la région. Les réservoirs débordent, les digues et les barrages sont complètement dépassés. Et une énorme quantité d'eau déferle notamment sur le quartier de Bassin. C'est ce qu'on appellera le déluge du Saguenay, l'une des catastrophes naturelles les plus importantes de l'histoire du Québec. Et c'est là où cette maison devient célèbre. Parce que tous les bâtiments autour d'elle ont été emportés, détruits par la pluie torrentielle. Tandis qu'elle, elle est restée debout, seule au milieu d'un paysage complètement ravagé. Et les images ont été diffusées dans les médias et ont fait le tour de tous les journaux parce que cette maison est devenue comme un symbole de la résistance et de la résilience des Saguenayens. Mais ce n'est pas simplement un miracle architectural, cette maison. Si elle a résisté, c'est parce que son propriétaire avait renforcé ses fondations allant jusque dans la roche où elle se trouvait. Ce qu'il ne se voyait pas des propres yeux a justement fait toute la différence quand la tempête est arrivée. Aujourd'hui, la maison, elle est conservée et transformée en un musée consacré justement à ce déluge du Saguenay. On ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. On ne sait pas quelle tempête va s'abattre sur nos propres vies. Par contre, il y a une chose qu'on peut choisir dès aujourd'hui. Sur quoi ? Sur qui bâtir notre vie ? Et dans quoi nous allons l'ancrer pour qu'elle résiste à toutes ces tempêtes ? Bien avant ces événements de cette maison, Jésus, dans son enseignement, donne l'exemple justement de deux hommes. Un homme qui construit sur le roc et un homme qui construit sur le sable. Les deux construisent leur maison. Et Jésus raconte cette histoire fictive, pas juste pour nous faire un cours de maçonnerie, mais pour nous parler de nos propres vies. Les maisons représentent nos vies, ma vie, ta vie. Et dans l'histoire de Jésus, tout le monde construit. Nous sommes tous en train de construire notre propre vie. Peu importe comment et peu importe de quelle manière, nous construisons tous. Et même ce langage est ancré dans notre langage culturel. Peut-être vous avez déjà dit à quelqu'un, « Ah, il est temps de construire ton avenir. Construis ta vie, développe ton potentiel. Bâtis autour de tes études, autour de ta famille. Fonde une famille. Assure-toi de ta sécurité financière. Fais-toi une réputation. Accomplis tes rêves. Accomplis ce que ton cœur te dit de faire. » Et même si la plupart de ces choses sont vraiment bonnes et qu'il n'y a rien de mauvais à vouloir une belle famille, à réussir ses études, à avoir une bonne job, à avoir toutes ces choses-là, notre culture se base beaucoup sur l'apparence. Et nous insiste à construire une belle maison, une grande maison, une maison impressionnante, peut-être une maison instagrammable. Jésus, lui, nous appelle à regarder ailleurs, à ce qu'il y a en dessous de cette maison. Parce qu'une maison peut être magnifique et pourtant reposer sur de mauvaises fondations. Alors la grande question qu'il nous faut nous poser ce matin, c'est pas « qu'est-ce que je suis en train de construire ?» mais plutôt « sur quoi je suis en train de construire ma vie ?» Et Jésus nous le dit clairement parce qu'il entend par fondation, regardez le verset 24, il dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Et verset 26, il dit, il recite la même chose « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique va être semblable à tel ou tel homme. » La fondation n'est donc pas simplement une idée à laquelle on adhère, ni même à une vérité qu'on leur reconnaît comme étant juste. Jésus précise ce qu'il entend par ici. Bâtir sur le roc, c'est entendre ses paroles et les mettre en pratique, et agir comme si ses paroles étaient la vérité. C'est ainsi que ces paroles deviennent alors le réel fondement de notre vie. Lorsqu'elles ne restent pas seulement dans notre tête, mais que ces paroles orientent carrément nos choix de vie, nos réactions et notre manière de vivre. Et c'est intéressant parce que ici, Jésus dit que les deux ont entendu, les deux ont écouté l'enseignement, tout le long enseignement que Jésus vient de faire. La différence n'est donc pas entre une personne qui a entendu et une personne qui n'a pas entendu. La différence, elle est sur celui qui met en pratique ou qui ne le met pas. On peut donc dire que connaître les paroles de Jésus, ce n'est pas encore bâtir sa vie sur elles. Les apprécier, apprécier les paroles de Jésus, apprécier de venir à l'Église, n'est pas encore bâtir sa vie sur Jésus. On peut être amené à grandir toute sa vie autour du roc sans jamais véritablement bâtir au-dessus. C'est un peu comme si vous connaissez parfaitement le mode d'emploi d'un parachute, que vous l'avez lu 10 fois, que vous connaissez son fonctionnement par cœur, que vous savez exactement quand est-ce qu'il va se déclencher, s'ouvrir, comment ranger les fils dedans pour justement qu'il s'ouvre bien. Mais le jour où vous sautez de l'avion, la question n'est plus « est-ce que je connais le parachute ?» mais « est-ce que je fais confiance suffisamment au parachute pour porter mon poids, pour soutenir ma vie et arriver sain et sauf en bas ?» Ce que Jésus cherche ici n'est pas simplement des admirateurs de son enseignement, mais des disciples qui lui font suffisamment confiance pour vivre selon ce que Jésus a dit. Mettre en pratique ne signifie pas non plus juste accumuler des bonnes actions dans son dos pour comme mériter Dieu, mais ça signifie prendre suffisamment Jésus au sérieux pour lui confier réellement, entièrement sa vie. Pas seulement juste une partie de la maison, pas seulement le dimanche matin, mais toute sa maison, toute sa vie. Une maison à moitié bâtie sur le roc finit aussi par être emportée par la tempête. Bâtir sur les paroles de Jésus, c'est décider que ce qu'il dit sera suffisamment solide pour porter tout le poids de ma vie. Et on pourrait croire qu'on n'a pas besoin de fondation, parce que tant qu'il fait beau, les deux maisons peuvent avoir le même visage, peuvent avoir exactement la même apparence. On peut difficilement savoir sur lequel est basé sur le roc, sur lequel est basé sur le sable. Mais on sait que le beau temps ne dure pas toujours, n'est-ce pas ? Jésus poursuit versets 25 et 27, il dit exactement la même phrase. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La tempête frappe les deux maisons. » Jésus ne dit pas « Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique n'aura jamais de tempête dans sa vie. » Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Non, la pluie tombe sur les deux maisons, à l'identique, avec la même intensité. La foi chrétienne n'est donc pas une promesse que rien de difficile ne vous arrivera. Jésus promet quelque chose de différent. Il promet qu'une fondation peut tenir lorsque la tempête arrive, que notre maison peut tenir debout, même lorsque la tempête s'abat contre nous. Donc la tempête ne crée pas des mauvaises fondations. Au contraire, elle les révèle. Elle révèle ce sur quoi, jusque-là, on était réellement en train de bâtir notre vie. Admettons, toute ma vie tourne autour du sport ou de la musique. C'est là que je trouve ma valeur, mon identité, mon avenir. Et puis un jour, une blessure arrive et m'empêche brutalement de continuer. C'est pas cette blessure qui rend le sport ou la musique mauvaise, mais elle révèle quelque chose. Elle révèle que cette activité ne pouvait pas porter le poids de toute ma vie. Elle n'était pas capable de porter mon identité, mon espérance, toute ma vie en fait. C'est ce que font les tempêtes. Elles mettent à l'épreuve ce sur quoi nous sommes réellement appuyés. Elles révèlent si ce sur quoi on est peut vraiment nous porter tout le long de notre vie. Et c'est peut-être vrai avec le sport ou la musique, mais c'est aussi vrai pour notre carrière, pour notre argent, pour une relation amoureuse ou pour une relation amicale, pour une bonne réputation ou pour une bonne famille. Même une bonne chose peut devenir une mauvaise fondation lorsqu'on lui demande de porter un poids qu'elle ne devrait pas porter. C'est pour cela que Jésus nous appelle à mettre ses paroles en pratique, à ne pas placer notre espérance ultime dans quelque chose qui ne peut pas tenir, mais de placer notre confiance en lui. Et je crois que Jésus va encore plus loin dans notre texte, parce que juste avant cette illustration, quelques versets plus tôt, Jésus va dire au verset 21, « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ici, il parle de ce jour-là, de ce jour où chacun va devoir se tenir devant Dieu. Alors que quand Jésus parle de la pluie, du torrent, des vents. On peut certainement penser à toutes les tempêtes de notre vie, mais je pense que le contexte nous invite, nous encourage à regarder plus loin encore. Il existe une tempête bien plus grande que celle que nous vivons durant notre vie, bien plus grande que celle de la perte d'emploi, d'une blessure, d'un échec, ou même d'une grande souffrance que nous portons. Cette tempête-là, c'est le jour où on arrivera, où notre vie arrivera à terme, où on va se tenir finalement devant Dieu et qu'on va devoir rendre compte de nos actes. Alors la véritable question devient, quelle fondation peut porter ma vie aujourd'hui, ma souffrance de demain, ma mort un jour, et me tenir devant Dieu et qu'il ne s'ébranlera pas ? Dans le fond, existe-t-il une réelle fondation capable de pouvoir porter absolument tout ça ? Jésus nous invite à bâtir nos vies sur ses paroles. Mais pourquoi Jésus ? Pourquoi lui ? Pourquoi serait-il une fondation suffisamment solide pour que je me confie en lui, pour que je confie toute ma vie, tous mes rêves, tous mes projets en lui ? Il y a quelque chose de frappant ici, dans le texte. Jésus ne parle pas comme un simple professeur de sagesse, comme un super bon enseignant. Non, il dit, regardez verset 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » C'est les paroles qu'il dit. Dans le contexte juif, à ce moment-là de son enseignement, tout le monde s'attendait à une chose. C'est qu'il puisse dire, « Ok, maintenant je vous ai parlé, je vous ai enseigné longtemps, maintenant écoutez ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut que vous mettiez en pratique. » Et pourtant Jésus dit, « Quiconque entend mes paroles, ce que je dis et les met en pratique, » il place ses propres paroles au centre, comme étant celui qui détient l'autorité divine. Et justement, deux versets plus loin, à la suite de ce que j'avais partagé avec Seigneur, versets 28 et 29, le texte va nous dire « La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas que leur scribe. » Jésus détient vraiment une autorité, l'autorité qui vient de Dieu. Et la foule le reconnaît ici. Et un petit peu plus avant, dans la suite du passage où je vous parlais de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous du royaume de Dieu », verset 23, il est dit « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Autrement dit, Jésus ne se présente pas seulement comme celui qui enseigne le bon chemin de Dieu à suivre. Il se présente comme celui qui, devant notre vie, va juger notre vie. Voilà une affirmation immense. Celui qui nous invite à bâtir notre vie sur ses paroles, nous appelle à reconnaître en lui une autorité digne de confiance, une autorité qui vient de Dieu, une autorité divine. N'est-ce pas merveilleux? Nous pouvons bâtir sur celui qui détient toute autorité, sur Dieu lui-même. Nous pouvons bâtir et remettre notre vie entre les mains de celui qui va nous juger. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on pourrait confier notre vie à Jésus. Jésus lui-même a traversé cette tempête ultime. Il n'est pas du tout étranger à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons. À la croix, Jésus n'a pas observé notre problème de loin. Il est entré dedans. Lui qui avait vécu sans péché a porté le jugement de notre péché. Il a porté le jugement que nos péchés mérités. Il a connu la condamnation, la souffrance et l'abandon de son Père. Quand à la croix, il a crié « mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » Et si son histoire s'était arrêtée là, on aurait pu juste admirer Jésus, mais on n'aurait eu aucune raison de bâtir notre vie sur lui. Parce que la mort aurait vaincu, Mais 3 jours après, le tombeau était vide. Jésus est ressuscité. Et donc, c'est tout le fondement de notre vie. Parce que Jésus a vaincu la mort. Parce que ce qui nous faisait peut-être le plus peur, Jésus l'a terrassé, Jésus l'a détruit. Jésus a vaincu ce que notre péché méritait. Jésus a porté sur lui le poids de nos péchés, la condamnation. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Mais en plus de ça, il a vaincu. On peut marcher avec lui. La mort a frappé cette fondation de toutes ses forces, mais elle n'a pas pu le garder enterré. Elle n'a pas pu briser le roc. Voilà pourquoi la résurrection est si incroyable. Elle ne nous dit pas seulement que Jésus était un homme extraordinaire. Elle nous montre ce qu'il a vaincu. Elle nous montre qu'il a vaincu ce que personne parmi nous aurait pu vaincre. Le péché, la condamnation et la mort. Alors pourquoi bâtir sur Jésus ? Parce que celui qui nous demande de confier notre vie, c'est Dieu lui-même venu vers nous. Parce que celui qui demande de le suivre a déjà traversé cette tempête ultime, cette tempête que nous ne pouvons pas traverser seuls. Alors bâtir ma vie sur sa fondation est la meilleure chose que tout être humain peut faire pour que je puisse trouver une assurance solide et sûre pour ma vie présente et pour ma vie future. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir à travers les baptêmes ce matin. Célia, Juliana, Simona, Luisa, Daniela ne sont pas venus dire « Regardez bien comment on suit super bien nos parents et qu'on obéit. » Non, elles sont plutôt venues nous dire « Regardez comment nous nous identifions à Jésus. » Elles sont en train de nous dire, nous avons décidé de bâtir notre vie sur Jésus. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés et que par sa mort et sa résurrection, il est le seul et unique fondement qui m'assure une vie éternelle avec lui. Elles ne savent pas encore ce que la vie leur réserve, ni quelles tempêtes les attendent. Mais elles savent désormais qu'elles peuvent faire confiance à une personne qui s'appelle Jésus. Et cette invitation n'est pas seulement pour elle, mes amis. Elle est aussi pour toi. Peut-être que tu as toujours grandi autour de Jésus, grandi dans une famille chrétienne, que tu connais les histoires de la Bible probablement par cœur, ou en tout cas une bonne partie par cœur. Ou peut-être que pour toi, tout ça est juste nouveau, c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église ou que tu entends le message de ce que Jésus a fait. Mais dans les deux cas, il y a une question importante que j'aimerais te poser, que Jésus te pose ce matin. Sur quoi bâtis-tu ta vie ? À côté de la maison du Saguenay, il y avait plein d'autres belles maisons qui pouvaient sembler solides et bien construites pourtant. Mais lorsque le déluge est arrivé, plus rien autour. Une seule est restée debout, celle dont les fondations étaient directement ancrées dans le roc. De la même manière, Jésus nous invite à réfléchir aux fondations de nos vies. Et c'est un moment que je voudrais qu'on se laisse maintenant. Réfléchis à la fondation de ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être tu es en train de traverser une épreuve terrible qui est en train de tout shaker dans ta vie. Est-ce que ce n'est pas en train de révéler une fondation qui ne devrait pas être ? Celui qui bâtit sur Jésus peut demeurer debout. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alors j'aimerais juste qu'on ait un temps de silence, qu'on médite sur ces paroles Prenez le temps, vous pouvez fermer les yeux, baisser la tête. Parlez à Dieu si le cœur vous en dit. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur parce qu'on a entendu des témoignages de jeunes filles qui disent publiquement « Jésus est la fondation de ma vie et le surfondement ». Elles nous l'ont toutes dit, elles veulent bâtir sur toi pour le reste de leur vie. Elles veulent te suivre. Seigneur, merci pour ça, parce que oui, il n'y a pas de plus bel engagement que celui-là. Il n'y a pas de plus sûr engagement que bâtir sa vie sur toi. Merci parce que tu es un roc solide et sûr. Dans cette vie où il y a tellement d'épreuves, tellement de tempêtes qui peuvent s'abattre sur nous. Seigneur, tu ne nous promets pas de ne pas avoir de tempêtes. Tu nous promets d'être une fondation suffisamment solide pour les traverser. Merci pour ça. Et Seigneur, je veux te prier de tout mon cœur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui bâtissent leur vie aujourd'hui, mais pas sur toi. Seigneur, il y a peut-être une personne qui reconnaît ça ce matin. Peut-être une personne qui a envie de changer de vie, qui a envie d'être transformée, qui a envie d'apprendre à vivre avec une assurance de ce que tu tiens sa vie entre ses mains, dès maintenant et pour l'éternité. Alors Seigneur, je te prie de poser ta main sur cette personne, sur ces personnes. Et Seigneur, il y a aussi peut-être une personne qui aime l'Église, qui vit l'Église, qui est là peut-être à tous les dimanches, et qui pourtant, dans une tempête de sa vie, Seigneur, révèle qu'elle n'est pas vraiment fondée sur toi. Seigneur, je veux te prier pour cette personne aussi, pour ces personnes. Que tu puisses de nouveau être leur sur-fondation. Qu'elles puissent revenir sur le roc. Qu'elles puissent traverser, Seigneur, ces épreuves avec foi, que tu les tiens entre tes mains. Et alors que nos têtes sont baissés, alors que nos yeux sont fermés. Je voudrais juste te demander de lever la main si tu as fait l'une ou l'autre de ces prières. Si tu as dit, moi je veux bâtir ma vie sur Jésus, je veux changer ma vie. J'étais peut-être loin de Dieu. Et maintenant je veux bâtir ma vie sur lui. Je reconnais peut-être que le dimanche matin, je suis d'apparence un bon chrétien. Mais la tempête que je traverse révèle que j'ai peut-être des idoles dans ma vie. Si c'est votre cas, levez votre main maintenant. J'aimerais juste prier pour vous. Seigneur mon Dieu, tu vois ces mains qui se lèvent. Je ne sais absolument pas du tout ce qu'elles sont en train de vivre. Mais Seigneur, je veux te supplier d'intervenir dans leur vie, de leur faire profondément du bien, de te révéler comme un roc solide et sûr pour leur vie, maintenant, pour demain et pour l'éternité. Seigneur, bénis ces personnes. Et c'est dans ton nom puissant que nous avons prié. Amen.